Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Claude Nougaro, 1929-2004. Aujourd'hui, à l'occasion du printemps des poètes, dédié cette année à l'insurrection poétique, Une vie, une œuvre fait chavirer le verbe sur des rythmes insoumis en compagnie du boxeur troubadour Claude Nougaro, celui qui frappait les mots comme des silex et dont la voix vibrait au son de la musique nègre. Nougaro, l'enfant naturel de la ville rose, un homme noir, aux noirceurs émoussées par l'alcool, l'amour et la scène. Un funambule dansant qui donnait son corps et son sang à ses aficionados. Claude Nougaro, du swing plein les mots, un documentaire de Jérôme Sandelard et Emmanuel Geoffroy.
Est-ce que je vais laisser quelque chose? Est-ce que la chanson est capable de laisser quelque chose réellement? Ou, avec les ans, la patine du temps et la vérité de ce que j'aurais pondu, est-ce que ça va me survivre? Eh bien, que répondre? Moi, je crois que oui.
Avec un J de joie, dans un D de détresse, un A comme Amérique et l'Afrique au milieu, et deux aides pour que les cuivres glissent mieux. Ouvrez les gaz,
Claude Nougaro,
voici l'Altesse,
du swing plein les mots.
Laissez passer sa majesté le jazz.
Le jazz, la nuit, une cave, des caves, des endroits douteux, des petits matins, le milieu du jazz enfumé, alcoolisé, et puis ce petit bonhomme qui se baladait dans ce milieu, puis qui cherchait à placer ses chansons.
Bernard Lubat, musicien.
Et puis un jour, un de ces musiciens de jazz, de ces endroits douteux, lui a dit, mais dis donc, tu ferais bien les chanter tes trucs, quoi. Je ne sais pas pourquoi Nougaro a rencontré le jazz. Il a dû rencontrer le jazz parce qu'il n'y comprenait rien, parce que c'était une forme de poésie, quoi. De poésie sonore. Et ça a sans doute dû lui exciter la glotte.
Il y a deux séismes intellectuels chez Nougaro. L'opéra, bien évidemment. Et le jazz qu'il va découvrir plus tard quand sa grand-mère va miraculeusement acheter une TSF.
Mon père était un grand chanteur de bel canto. Et les parents, mon père et ma mère, qui étaient aussi une merveilleuse pianiste qui jouait du fauré cristallin, ils m'ont légué ce trésor de la musique occidentale française du 19e siècle. Mais lorsque j'étais enfant et qu'on retentit les premiers accents du jazz, c'était dans un petit poste qui trônait sur le buffet de la cuisine toulousaine, j'ai commencé à danser devant le buffet.
Il y avait une émission sur le jazz d'un certain Hugues Panassier qui a été en France l'introducteur de cette musique. Et c'est là où j'ai entendu les voix de ces grands oiseaux nègres, Armstrong, Glenn Miller, qui me également avec Moonlight Serenade, Bessie Smith, la grande chanteuse de blues, et autres, Duke et Count Basie et Ellington.
C'est une révolution en lui.
Laurent Ballandra, auteur.
Il commence à danser. Au départ, faut pas oublier qu'il veut être danseur. Donc il commence à danser devant le poste de radio avec sa grand-mère qui est effarée, qui a l'impression d'entendre non pas du jazz, mais quelqu'un qui tape sur une batterie de casserole et qui comprend pas que ce gamin complètement exubérant puisse consacrer une telle énergie à danser devant un poste de radio, dont il faut rappeler quand même qu'à l'époque, les postes de radio, c'était des meubles. Il est fasciné par cet outil qui lui apporte tout ce qu'il ignore. Il faut vraiment se resituer dans l'époque, l'enfance de Nougaro, c'est les années 30, donc dans le faubourg de Toulouse, c'est-à-dire avec accès à rien, quoi. Donc pour lire, par bonheur, c'est encore l'époque où l'école enseigne les grands classiques. Il est complètement bouleversé par Victor Hugo, dans lequel il trouve un percussionniste du verbe, comme il dit, qui est un terme après qu'on va finalement coller à Nougaro lui-même. Et puis, bien évidemment, l'enfance, c'est la découverte de la bande dessinée. Je pense aussi que ça explique pourquoi il y a beaucoup de dessins dans ses cahiers. Il est vraiment fasciné par le dessin très tôt. Là, c'est au tout début, regardez, ces cahiers d'écolier où il y a les cours. Mais alors, les cours sont maculés de dessins, sont complètement recouverts par des formules poétiques. Donc, on a des figures géométriques et puis d'un seul coup, le visage d'une femme qui vient terminer la page. Et on voit déjà apparaître une espèce de ligne dans le dessin à la Cocteau. Parce que c'est aussi un dessinateur, c'est aussi quelqu'un qui est complètement fasciné par Cocteau, poète, mais Cocteau dessinateur, Cocteau réalisateur. Et dans sa prime jeunesse, quand il rédige ses tout premiers poèmes, son premier réflexe, c'est de les envoyer à Cocteau, qui hélas ne va pas répondre, ce qui va être un de ses premiers grands drames d'adolescent.
Quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé par faire un peu de journalisme où j'allais interviewer mes héros. Et notamment, il y avait Cocteau à l'époque et il y avait notamment Audiberti que j'ai rencontré à Saint-Germain-des-Prés, à l'époque où Saint-Germain-des-Prés était réellement le centre de la littérature française. Et puis j'ai eu le bonheur de lui plaire et c'est un homme qui m'a beaucoup ému, même lui, sa présence humaine, quoi. J'ai trouvé en lui, il y avait beaucoup d'échos, beaucoup de choses où je sentais comme lui, où il m'a dessillé, ça a été un peu presque une sorte de frère, de grand frère spirituel. Et en plus, oui, j'avais la chance d'avoir hérité d'un appartement avenue des Ternes dont mes parents avaient été les locataires et auxquels j'avais succédé. Et comme Audiberti, lui, il aimait aller de gîte en gîte, et donc il a fait son nid avenue des Ternes pendant une bonne année. Et puis on parlait la nuit et il était barricadé dans ses lunettes noires car on était la plupart du temps dans la cuisine et que la blancheur du frigidaire l'aveuglait. Alors j'avais affaire à cette espèce d'aveugle visionnaire et avec des conversations où d'ailleurs je l'écoutais surtout car il parlait comme il écrivait, quoi. Et c'était un enfant génial de la parole libre.
Jacques Audiberti, dites-moi que faire pour que le maçon chante mes chansons. Eh bien, mon petit, va-t'en chez mon père, il te le dira, il était maçon dans le vieil Antibes, derrière la mer, il a sa maison, rue du Saint-Esprit, rue du Saint-Esprit. J'y suis allé hier, votre père est mort, Jacques Audiberti.
La rencontre avec Jacques Audiberti va être décisive parce qu'il y a un mot qu'emploie Audiberti qui est assez étonnant, c'est qu'il lit les premiers textes de Claude et il dit « il faut écrire plus boxeur ».
Christian Laborde, auteur et ami de Claude Nougaro.
Les premiers textes de Claude, c'est quoi? Ce sont des textes qu'il récite, qu'il dit au lapin agile, et donc il est encore réfugié, l'on va dire, dans une écriture un petit peu conventionnelle. Et Audiberti va l'inviter à suivre une pulsation plus moderne, plus énergique, plus punch, justement. Et évidemment, c'est extraordinaire parce que lui dire « il faut écrire plus boxeur », c'est précisément ce que va faire Claude et ce que Claude va devenir. Il va devenir un boxeur de la langue française.
Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Boxe, boxe, OTS de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher, boxe, boxe. Lui le vieux kid marin.
Nougaro, c'est la rencontre entre une véritable culture littéraire, une véritable culture populaire et du rythme. Donc, Claude Nougaro comprend qu'il peut, à cette époque-là, être parolier, placer des chansons pour des interprètes. Il le fait beaucoup avec Jean-Michel Arnaud, il le fait beaucoup avec Jimmy Walter, mais surtout, il fait la connaissance de deux artistes majeurs de l'époque, un qui est Henri Salvador, mais qui est déjà à son apogée, donc ils ont peu l'occasion de travailler ensemble, et surtout de Michel Legrand, qui est un débutant et qui va d'un seul coup changer la vie de Claude Nougaro.
Michel Legrand, je voulais qu'on évoque ensemble la rencontre avec Claude Nougaro en 1956. À l'époque, il avait 27 ans, vous 24. Dans quel contexte vous l'avez rencontré pour la première fois ?
Écoutez, alors, la première fois que je l'ai rencontré, moi, je travaillais dans un grand music hall de Paris qui s'appelait l'Alhambra, Maurice Chevalier. Nougaro, on m'avait parlé d'un jeune auteur qui arrivait à Paris, qui... Alors je dis bien, je voudrais le rencontrer, parce que moi j'étais toujours affamé et curieux de voir des gens que je ne connaissais pas encore. C'est ça, c'était tout l'intérêt de notre vie, de notre métier, de notre existence. Et je vois arriver Claude Nougaro. Alors je dis, formidable, on commence. On s'assied dans ma loge, j'avais un piano, on joue des choses. Il me montre ses textes, tout ça. Je dis, oh, c'est formidable, c'est bien. Et on s'est mis à écrire des chansons. Je suis allé chez lui, 2 avenue des Ternes. Et puis, il me donne des textes, je fais des musiques. Après, on s'est dit, bon, maintenant, il faut trouver des gens qui vont les chanter. Alors, on va chez des gens qui, à l'époque, chantaient. Il y avait Philippe Clay, Dario Moreno, Annie Cordy. Et à chaque fois qu'on allait jouer chez les chanteurs nous disaient, mais qu'est-ce que ces chansons-là ? Mais qu'est-ce que vous foutez à faire des chansons pareilles tous les deux ? On dit c'est ce qu'on aime, c'est la musique qui swing, qui bouge. Mais enfin, c'est pas ça. Alors on se trouve un peu bête tous les deux parce que moi je chantais pas, lui non plus. Et puis un été, moi je pars en vacances avec ma femme et mes enfants. Je reviens au début septembre après les vacances scolaires. Et je vais chez Claude. Et il me montre, dit tiens, pendant l'été, j'ai écrit des textes. Il me montre le cinéma. La petite fille, les Don Juan, le jazz et la java, 7 ou 8 ou 10 textes, mais sublime.
Ce qu'il faut dire de fadaise, pour voir enfin du fond de son lit, un soutien-gorge sur une chaise, une paire de bas sur un tapis.
Sublime, je dis, mais ça c'est... Écoute, c'est formidable, parce que c'est vraiment... Alors moi, je rentre chez moi, j'écris les musiques de tout ça. On se revoit chez lui. Je chante, il chante, on chante toutes les chansons. Là. Et c'était magnifique, on était enthousiasmés. Moi, je marchais au plafond en disant, voilà ce qui est formidable aujourd'hui. C'est comme ça, personne n'en fait. Nous, c'est vraiment... Et c'était notre bonheur, notre plaisir, c'était notre sang, nos larmes, nos... Tout, c'était nous-mêmes qui étions dans ces chansons.
Le seul problème qu'on se pose.
Alors il me dit, mais il n'y a personne pour chanter ça. Je dis, si, moi je crois qu'il y a quelqu'un. Il me dit, qui ça ? Je lui dis, toi. Il me dit, comment moi ? Mais je ne suis pas chanteur. Je dis, non, tu n'es pas chanteur, mais tu vas le devenir. Mais pour emmener Claude au studio, pour enregistrer chez Philippe, il a fallu que je le menace. Puis on enregistrait tout ensemble, c'est-à-dire que il chantait avec l'orchestre qui était là. Et là, c'est formidable parce que il est dans le sang même de la musique. Vous savez, les gens qui swingent, c'est rare. Ce sont des gens qui sont tombés dans le chaudron sans le savoir et qui ont ça en eux et qui arrivent à envoûter un public comme dans les cérémonies vaudou. Alors, c'est amusant parce que après, il m'appelait, il me dit, toi, tu es mon accoucheur, il disait.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra.
Bardot pour partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi.
Ce qui fait le succès de Nougaro en 62, c'est dès la première phrase, on a tout. Dès l'introduction, on a tout. Sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, moi, je me fais du cinéma. Je veux dire, comment être plus dans l'évocation que ça, en inventant cette expression, l'écran noir de Mes Nuits Blanches, qu'on utilise aujourd'hui dans un langage courant, et en même temps avec un propos tellement imagé qui détourne le sens de la chanson, qui est quand même une séance de masturbation, je pense que personne n'a comprise.
D'abord un beau plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi.
Claude Nougaro, on dit que dans vos chansons, vous utilisez la technique visuelle de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est un peu une formule un peu compliquée. C'est-à-dire que tout bonnement, avec des associations de mots et le pouvoir également expressif de la musique, j'essaie de fabriquer un peu des images comme des images de films. Et certaines de mes chansons sont construites et concertées comme un petit film. Donc j'essaie qu'il y ait dans mes chansons une espèce de qualité visuelle, que l'oreille devienne un œil, si vous voulez.
Et de la même façon, une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après, tout est dit dans la phrase. Il y a cette façon tout de suite comme ça, comme un journaliste écrirait un article en allant directement à l'os. C'est aussi peut-être sa pratique journalistique, c'est aussi peut-être sa pratique poétique dans l'adolescence. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Il faut l'écrire quand même.
La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pie verticale.
Louis-Jean Calvet, linguiste.
La pluie fait des claquettes, c'est marrant parce que clic-clac, hein, ce genre de bruit, c'est polyvalent. Hein. On ferme la porte, on l'ouvre, ça fait clic-clac, on claque une portière de voiture. Ce mot claquette associé à la pluie, puis sur le trottoir, la nuit, etc., toute la magie de l'évocation phonique est là. Hein. Alors on imagine un danseur, parce que les claquettes, c'est il y a les pieds, mais au-dessus, il y a les jambes, et puis au-dessus, il y a un corps. Toi. On peut rêver comme ça, là, une pluie anthropomorphe, hein, avec une forme d'homme. Et puis, subitement, on est dans l'image à fond, et la musique est là. Il y a des alternances de longues et de brèves, un peu comme les pieds du joueur de claquettes, danseur de claquettes, hein, qui va taper, non pas sur le trottoir, mais sur du bois.
Il était imprégné de jazz.
Bernard Lubin.
De cette musique qui... Le swing, quoi. Le rythme dans le jazz, il ne rebondit jamais pareil. C'est comme l'écriture, le plein et le délié. Voilà. C'est pas du tout comme une boîte à rythme où tout est égal. Le rythme, c'est inégal, c'est altéré, c'est... Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas.
Mais
j'aime les mots passionnément, parce que ce sont des objets magiques, on peut les frotter ensemble, même les plus usés, et Dieu sait qu'il y en a, mais moi je frotte les mots comme des cailloux pour en faire une petite étincelle. Et les mots, justement, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils peuvent ouvrir le regard. Et ils chantent, ils ont une personnalité, ils vivent. Ils se servent de moi, je suis leur cour de récréation, tu vois. C'est pas moi qui joue avec eux, c'est eux qui se jouent de moi. Et bon, j'ai besoin de tailler les mots et le rythme. C'est l'incarnation des mots pour moi. Elle voulait un enfant.
Moi, je n'en voulais pas. Il en a fait quand même.
Cécile, ma fille.
Voilà.
Une belle chanson dédiée à sa fille, à l'une de ses filles.
Ouais.
Mes chansons mises bout à bout, ce n'est qu'un autoportrait. C'est ma petite épopée terrestre, quoi. À travers femme, nuit, alcool et poésie.
Un été. D'atteindre mes 14 ans, j'avais donné rendez-vous à une enfant, une petite espagnole du quartier. Un été, par la fenêtre ouverte de la villa, je guettais l'arrivée de ma Paquita.
Laurent Ballandra.
Il y a une très très belle chanson qui explique son rapport aux femmes, qui s'appelle Un été, et qui raconte sa première émotion sentimentale. Donc il a 14 ans, dans le Faubourg des Minimes, il tombe amoureux d'une petite Espagnole. Le Faubourg des Minimes est un lieu où les réfugiés espagnols qui fuyaient Franco venaient s'établir. On pourrait dire aujourd'hui que ça correspond à une cité où sont parqués les immigrés. Les indésirables, on va dire, de façon globale, parce que Nougaro représente, lui, les pauvres qu'on met là aussi. Et cette histoire d'amour avec Paquita va être une histoire fondatrice, puisqu'en fait, il est tétanisé par la jeune fille, tétanisé au point qu'il se sauve en courant. À peine lui a-t-il frôlé la main. Ce qui va provoquer chez Claude Nougaro une véritable crainte de la femme pendant des années. D'ailleurs, ses premières amours vont être masculines pendant assez longtemps. Il doit avoir, de la part de son ami Yves, qui est le directeur du Lapin Agile, une éducation sentimentale. Et c'est Yves qui va lui montrer comment séduire ces femmes qui lui font si peur, et qui va lui présenter d'ailleurs sa première épouse. Et à partir de Sylvie, à partir de cette grande histoire d'amour violente, puisque c'est l'héroïne d'une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, il ne peut plus se passer des femmes, il ne peut plus se passer de leur regard, il ne peut plus s'empêcher de les séduire, tout en étant persuadé qu'elles sont à la fois des anges et des démons.
Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après, et moi qui cours après au milieu de la nuit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée, et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. C'est de quel côté la scène? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Qu'est-ce qui lui a pris? Lorsque je l'ai trompée, elle l'a jamais appris. C'est pas elle qui s'approche. Tu m'aimes vraiment, dis-moi. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. C'est tout ce qu'elle sait dire. En couvant, en rasant, quand je voudrais dormir, faut lui dire que je l'aime.
Ce qui est fascinant chez Nougaro, c'est que l'homme est d'une extrême pudeur et l'auteur est d'une extrême impudeur. Il y a une dichotomie totale entre l'individu et l'artiste. Il nous plonge au cœur essentiellement quand même de ces histoires d'amour, de ces histoires de couple, de ces histoires de cul, avec une complicité qui rend finalement l'auditeur impliqué dans la vie de l'artiste. Je crois que le rapport de Nougaro à son public est de l'ordre passionnel. Il y a évidemment des gens qui vont aimer Nougaro pour les quelques tubes ou la partie visible, on va dire. Mais Nougaro, c'est essentiellement un homme d'album. C'est des albums thématiques. À chaque fois, il va aborder un album par une femme. On est dans la lecture brillante d'un journal intime avec tout ce que ça peut avoir de terrible. Parce qu'il épargne rien à personne. Il sait être sévère, il sait être explicite. Même ses désirs sont mis en chanson.
Je suis sous ton balcon, comme Roméo.
Oh, oh, Marie-Christine,
je reviens comme l'assassin sur les lieux de son crime. Mais notre amour n'est pas mort, hein? Dis-moi que non. Depuis que l'on s'est quitté, je te jure que j'ai bien changé.
Un jour, on fait un concert ensemble dans un grand théâtre de Québec. Moi, j'avais avec moi un orchestre symphonique. Et lui, pour chanter, il avait juste un piano. C'était Maurice Vander qui l'accompagnait. C'était l'époque où il n'y avait qu'un seul pianiste pour l'accompagner. Formidablement, d'ailleurs. Maurice était un tel pianiste. Puis surtout un pianiste de jazz unique au monde, hein, ce type. Alors, j'ai dit à Claude, je dis, écoute, la vedette, c'est toi, ne t'inquiète pas, moi, je m'en fous. Je passe au début, à la fin de mais je dis, c'est embêtant parce que si je passe au début avec 80 musiciens, et puis que tu fais la seconde partie avec un piano tout seul, ça va être plus dur parce qu'il n'y a pas cette espèce d'ensemble musical et cette richesse harmonique et tout ça. Elle me dit, non, la star, c'est moi. Je dis, très bien. Je fais la première partie, je fais un très, très grand succès. Et Claude, en deuxième partie, il fait un demi-succès. La tronche. À l'issue du concert, il ne me parle pas, il rentre chez lui. Le lendemain, on prend l'avion pour rentrer en France ensemble. On se retrouve en première classe dans un siège voisin. Il ne me dit pas bonjour. Il est à Jeun, il a eu à l'altitude dite de croisière. Alors on attend. Moi, je m'en fous, bon, il ne me parle pas, ça m'est égal. On arrive à la tête de croisière, il boit 1, 2, 3, 4, 5, 6 whisky, et au sixième whisky, il se lève de son siège, il vient s'asseoir sur mes genoux, il me roule un patin, et il me dit, toi, tu es rose. Tu es un homme rose, et moi, je suis un homme noir. Je dis, oh, très bien. Oui, mais il a raison. Moi, j'étais toujours porté sur le bonheur, sur la joie, sur le rire, sur le, voyez, sur le plaisir. Lui, c'était plutôt en enfer qui se situait.
Christian Laborde.
Il y a ce besoin d'ivresse pour chasser ses propres douleurs, car Claude trimballe quand même un sac à dos de souffrances liées à son enfance, à la solitude de son enfance, à ses doutes, et donc il oublie tout ça, bien entendu, il traverse tout ça dans l'alcool, et donc il était à la fois athlétique, sur scène, parce que c'était un tour de chant, évidemment, avec de nombreux rappels. Et puis, on ne joue pas du jazz comme on joue une musique traditionnelle. Là, les musiciens existent vraiment. intègrent leur solo à la chanson, il y a tout un jeu avec eux et une dépense scénique énorme. Donc il y a ce côté taurin, quoi, ce côté solide, costaud de Claude que l'on connaît, le petit taureau comme il a chanté. Et puis à côté, il y a dans la nuit parisienne les errances d'un Nougaro qui ne quitte pas la bouteille et qui rentre dans des états déplorables chez lui et qui s'en veut et qui en pleure et qui retrouve ses esprits et qui retrouve le papier et qui écrit de nouvelles chansons. Et l'échange continue ainsi entre ce qu'il y a de lumière sur scène et ce qu'il y a de nocturne dans cette nuit d'errance.
Bernard Lubat.
Ce qui est important chez Claude Nougaro et qui est très atypique, c'est son rapport à la musique et aux musiciens. Pour la première fois, on a un artiste qui, lorsqu'il passe à l'Olympia, inscrit à même taille que lui le nom des musiciens qui l'accompagnent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire et de l'importance qu'il a accorde aux personnes qui sont avec lui sur scène. C'est pas des accompagnateurs, c'est pas des musiciens, c'est sa famille, c'est ses frères. Quand on parle d'Eddie Louis, quand on parle de Maurice Vander, quand on parle de Bernard Lubat, on parle pas de musiciens qui ont travaillé avec Claude Nougaro, on parle d'eux comme des femmes parallèles de Nougaro. C'est une autre vie de couple.
Le corbeau croasse et l'herbe croît, le crapaud croasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix, je crois en l'autre, je crois en moi.
Il faut bien comprendre que c'est un couple assez inouï, hein. Le couple Maurice Vander, Claude Nougaro, ils sont nés la même année, c'est des espèces de jumeaux artistiques. Quand Maurice arrivait et que Maurice se mettait au piano, Claude expliquait avec ses mains, il y avait toute une gestuelle, j'avais l'impression, un petit peu à la manière de ces personnages, vous savez, sur les porte-avions, avec des gestes pour faire atterrir les avions. Là il guidait Maurice, et Maurice sentait ce que Claude voulait faire passer, savait s'appuyer sur tel mot que Claude soulignait, et ça donnait la musique. Donc c'était un échange complet, presque chorégraphique, entre Maurice et Vander et Claude Nougaro.
Le corbeau croasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix.
Avec Claude, on discutait les mots, la musique, les sons entre le piano, la basse et la batterie. C'était une polyrythmie incessante, quoi. On était toujours sur le qui-vive, comme ça, sur un truc, pour prendre tous les risques, tout en contrôlant tout ça. Enfin, c'était arrivé vivant à la fin du concert, c'était un exploit, quoi. Mais c'est à ça que ça joue. C'est ça, jouer. Jouer, ça veut dire ça, jouer. Ça veut pas dire répéter ce qu'on sait déjà, quoi. Ça veut dire prendre les risques qu'il faut pour que ça joue. Pour que ça joue, il faut qu'il y ait du jeu. Si c'est trop serré, ça chauffe, ça fume et ça pète.
Bernard Lubat.
Parce que chanter les chansons qu'il a écrites et les chanter dans et avec le jazz, il faut s'accrocher aux branches. Hein. C'est pas du tout confortable. C'est vraiment un combat, quoi. J'ai l'habitude de dire que la musique que je préfère, c'est le rugby. Donc là, c'était vraiment rugby, quoi. On n'était pas ces infirmiers, quoi. Tu t'accroches, tu chantes, si tu tiens pas, tu dégages.
Il avait un vrai sens de l'improvisation ?
Pas trop, non. Sans doute un désir, mais une sainte trouille de l'improvisation. Mais en même temps, il avait une façon d'écrire pour que ça chante, quoi, que ça danse, quoi. C'est peut-être là qu'il mettait son sens de l'improviser. Comme il avait besoin d'être porté par le rythme, ben il dansait, quoi. Il dansait avec les mots, il dansait avec son corps. C'était un vrai plaisir de jouer avec lui. Mais une vraie difficulté aussi.
Chaque fois que j'ai affaire aux souris, j'ai envie de donner ma langue au chat. Les souris, vous le savez, je les chéris. Je les adore, mais dès que j'avance là, pad, 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 padadra.
Parce que c'était très fragile, ces concerts, c'était le funambulisme. Beaucoup plus que n'importe qui d'ailleurs. Parce que les relations entre poésie, chant, texte et musique, à ce point-là, c'est vraiment le fil tendu.
Viens, c'est pas. Sous ma patte. Ah, mais qu'est-ce que j'avais pas fait là? Elles
sort ses griffes. Ramène pas ta fraise, Ramina grosse bite. Ramina quoi? Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit pas les pattes phallocates.
Claude est un comédien profondément. Moi j'assistais à des nouvelles chansons qui s'imposent d'emblée, comme Le Chat. La chanson, mais elle s'est imposée par la gestuelle de Claude qui a créé le personnage et qui est devenu un chat sur scène. Et c'est le public, c'est la scène qui d'entrée a montré que c'était une chanson, un classique de Nougaro. D'ailleurs, il a passé sa vie sur scène. Il faut savoir que l'album en trio, donc avec Maurice Vander, Bernard Lubat et Pierre Michelot, ça a donné quelque chose comme 300 concerts. Mais qui en France se produit 300 fois sur scène pour un album? Ça a été ça. Le seul moment où Claude était bien dans sa peau, c'était sur scène. Donc, il y a passé sa vie. Pareillement, à bout de souffle, il devient un véritable gangster sur scène. Et la scène finale, lorsque les flics tirent sur lui, on voit Claude avec le jet de lumière qui prend la balle et qui s'éteint tel un gangster à la fin d'un polar. Il y a le personnage. Et c'est ça qui est très fort chez Claude Nougaro, c'est qu'on a une richesse d'écriture et de nouveautés verbales. Mais tout cela est toujours au service d'une histoire de personnages parfaitement incarnés.
Depuis quelques mois, Suzy par le bras, je me retourne et Suzy était là toute pâle, elle me souriait. De nouveau, le soleil a brillé. Dans un souffle, elle me dit, viens, j'ai la voiture tout près d'ici. Nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié, ne bouge pas. Avec la mallette, je l'ai frappé. Alors le coup de feu a claqué.
Nougaro, chaque fois qu'il utilise des musiques préexistantes, il les choisit pour ce qu'elles peuvent lui permettre du côté de la découpe du texte.
Oui, Jean Calvet.
Chaque fois que dans une chanson, on coupe un mot avec un accent tonique fort, on peut réinventer un autre sens subliminal. Je suis sous, on entend soulographie. Il est ivre, sous ton balcon. Hein. Et il y a des jeux de mots comme ça qu'on trouve dans beaucoup de chansons.
Je me souviens d'un concert qui se passait en Ariège. Donc, il descend, il était déjà remonté sur scène. Il revient sur scène avec Maurice Vander. Ils ne sont plus que tous les deux et quittent la scène sans arrêt. Une autre. Et là, il me dit, tu les entends? On dirait des vampires. Ils veulent me sucer le sang. Ce sont des vampires. Mais moi, j'aime les vampires. Et là, il remonte l'escalier et il déboule dans la lumière et il rechante de nouveau. Le public en demande et donc il en donne encore. Voilà. Il aime les vampires, quoi.
Le casque des pavés ne bouge plus d'un cil.
Nougaro, lui, c'était un auteur-interprète. Et bien souvent, il prenait pour fond musical des choses qui existaient déjà, sur lesquelles il y avait eu ou pas des paroles. Et Barimé en est un bel exemple. Alors, on a tous dans l'oreille le début de cette chanson, dans lequel le contraste entre les longues et les brèves, mais Barimé, c'est plus court. Mais Paris qui est beaucoup plus long. Alors, il y a des brèves, des longues, des croches et des noirs, si vous voulez. Ça donne un rythme à ce texte qui, ensuite, est uniquement psalmodié. Il n'y a pas de musique derrière. Il y a une rythmique dessous, mais il dit le texte.
Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon cri. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky.
Mais le texte, lui, en revanche, ce sont des alexandrins. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est le coup de génie, c'est de mettre des alexandrins sur une musique ou sur une rythmique africaine.
avec une richesse de vocabulaire extraordinaire. Je pense à le jeune homme harassé, déchiré ses cheveux, le jeune homme hérissé, arraché sa chemise, hein, avec des allitérations, des choses qui se répètent, des syllabes. Et puis des références à le sacre du printemps. Et puis juste après, quelques vers plus loin, il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Bon, là vous avez une écriture extrêmement classique, recherchée. Une rythmique, c'est l'alexandrin, le vers le plus classique qui soit. Et là-dessus, une musique de la Nouvelle-Orléans, enfin d'où on veut. Puisque c'est classé comme traditionnel, il n'y a pas d'auteur à cette musique.
Flo, 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 mela, flo, 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 mela. Flo, 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 mela, flo, 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 mela.
Quand on plonge dans notre mémoire, dans le dortoir de notre mémoire musicale, on se souvient qu'il y a une chanson, c'est un standard américain, qui s'appelle « Flomela », hein, qui a été chantée par Nina Simone en particulier, et le refrain c'est « Flo, 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 flomela, flo, flo, flomela ». Et le texte n'est que ça d'ailleurs jusqu'à la fin. Alors on se dit « Tiens, Nougaro, il est allé de ce côté-là ». Et effectivement, hein, il a pris cette rythmique-là pour faire son parimé. La bossa nova, c'est la chanson « Ah, tu verras, hein, tout recommencera, tu verras ». C'est un bel exemple de chanson écrite sur une musique. Musique de Chico Buarque de Holanda, qui était l'une des têtes de la MEPB, la musique populaire brésilienne. Ce qui est intéressant, c'est que Nougaro garde au début un peu de référence phonétique. « Oh, que sera » qui donne « Ah, tu verras, tu verras ». Mais quand on regarde le texte portugais et le texte de Nougaro, ça n'a rien à voir. Bon. En portugais, c'est « Qu'est-ce que cela sera, ce que l'on soupire dans les alcôves, ce que l'on murmure dans les poèmes, les chansons ?» Alors que lui, c'est l'histoire d'un couple, c'est tout à fait différent. Mais on a cette référence phonétique.
Tu verras, tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts, tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora, et je m'endormirai, tu verras, tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde.
Et à l'époque, il est marié avec Marcia, qui est brésilienne, et qui lui rapporte « O que será » de Chico Buarque. Il refuse obstinément de savoir ce que veut dire le texte original, parce que la musique l'inspire et l'emmène complètement ailleurs. Que ce soit l'anglais, le brésilien, il va adapter des chansons en ayant une méconnaissance totale de la langue, et donc du coup du texte.
Le soleil a le joli forçat, et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps, je crèverai son sommeil.
O que será, será, o que não tem certeza, nem nunca terá, o que não tem conserto, nem nunca terá, o que não tem tamanho.
Claude Nougaro, il est toujours ramené à Toulouse, qui est, je pense, quelque chose dû essentiellement à son accent. Hein, parce que d'abord, il n'a pratiquement pas vécu à Toulouse. Les minimes, le faubourg, c'est pas Toulouse, c'est la banlieue. Et puis en plus, dès 25 ans, il vit à Paris et il a 100 000 fois plus chanté Paris que Toulouse. Mais évidemment, il a écrit l'hymne de Toulouse. S'il y avait un hymne national à Toulouse, ce serait la chanson de Nougaro.
Il est loin, mon pays, il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'ouverte du canal du Midi et la brique rouge des minimes au mon pays, au Toulouse, au Toulouse.
C'est vrai qu'au départ, l'idée de base, c'est un espèce de règlement de compte. Il a été très malheureux à Toulouse. On l'a abandonné, Il n'a pas eu de vie de famille, il a quand même deux sœurs et des parents. Ils ont très peu vécu ensemble, à part en vacances, mais c'était pas une véritable vie de famille. Donc il a de la rancune, et en plus c'est une ville qui lui a donné aucune chance. Donc ce qui fait que les premières moutures de Toulouse sont plutôt irrévérencieuses. Il est marié à l'époque à Odette, qui est la maman de ses deux filles, Fanny et Théa. Et Odette, qui naturellement sa première lectrice, s'insurge en disant « c'est pas possible, tu peux pas écrire des récriminations sur la ville qui t'a vu naître. Tu dois faire une chanson d'amour. » Il s'y reprend plusieurs fois pour accoucher de Toulouse. Et c'est vrai qu'au final, je ne sais pas si c'est une chanson d'amour, mais en tout cas, il dépeint avec un réalisme poétique sa vision de la ville.
Un paysan, Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant...
Lorsqu'on prend un texte comme Toulouse, qu'on est un jeune professeur de français et que l'on fait lire ça aux élèves, on leur fait découvrir la construction en itinéraire, la façon dont un personnage se déplace dans la ville, la façon dont les images se succèdent, la façon dont le paysage se construit. On peut étudier le texte de Claude comme n'importe quel texte poétique.
Je revois ton pavé, ô ma cité gasconne, ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz.
Laurent Ballandra.
Le Nougaro des années 70, il cherche à se débarrasser du Nougaro des années 60, curieusement. C'est-à-dire qu'il va trier son public, il va choisir son public. Le Nougaro des années 60, il accumule les tubes. Et donc, il y a pour Claude Nougaro un drame qui est le public qui vient pour écouter des succès, qui vient pas découvrir, qui vient entendre le disque sur scène, ce que Nougaro est incapable de faire, d'abord parce qu'il est entouré de vrais musiciens, qu'il leur laisse une part d'improvisation extrêmement importante, et qui veut pas jouer ce jeu-là. Il veut pas jouer le jeu de l'artiste de variété, c'en est pas un. Donc ce qui fait que les albums de cette décennie vont être plus conceptuels. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a un garçon qui est maître en la matière, qui est Jean-Claude Vanier, qui va un petit peu plus tard co-signer avec Serge Gainsbourg l'histoire de Melody Nelson. Et Claude Nougaro va réaliser deux albums conceptuels avec Jean-Claude Vanier. Le premier, ça va être Récréation, des reprises de chansons françaises, agrémentées de sonnets qui sont autant de déclarations d'amour à Mouloudji, à Prévert, à Gainsbourg. Et l'autre, ça va être Plume d'ange, un espèce de poème lyrique qui a fait toute la durée de la face A du 33 tours. Je pense qu'il est au taquet de ce qu'il peut faire comme durée. Et avant les deux, il y a pour moi ce qui est l'album majeur de Claude Nougaro, Sœur âme, l'apogée de ce que peut donner Claude Nougaro comme interprète, comme auteur. Je ne sais pas comment c'est possible qu'on soit passé à côté d'un chef-d'œuvre pareil.
Ma sœur âme, ma sœur, amante religieuse, je suis un osseur, sois-moi miséricordieuse. Et mousse mes noirceurs au bain de ta voix. Fais-moi prendre l'ascenseur une ultime fois. Ne me descends. Là où les murs sont murs.
pour hisser les voiles. Nous y vivrons tous deux.
Jean-Claude Vanier, alors vous êtes auteur, compositeur, interprète, arrangeur. Vous avez travaillé avec Claude Nougaro à différentes reprises entre 71 et 93. Est-ce qu'il lui arrivait de venir avec des idées de mélodie lorsqu'il se présentait en studio ou vous aviez des séances de travail? Comment se déroulaient les séances?
Il n'y a jamais eu de séances de travail. Moi, je faisais mes mélodies dans mon coin. La première orchestration que j'ai faite, c'était avec des cuivres. J'avais un peu bouleversé la formation traditionnelle parce que j'avais pris 4 trompettes, 4 trombones, tuba, 4 corps et un harmonium pour faire. Parce que c'était un truc d'église, ce ram, un peu d'inspiration protestant gospel, quoi.
Qui était inspiré de Sister Salvation de Sly Danton, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Donc j'ai fait une orchestration un peu comme ça, et je me souviens qu'il était suffoqué. Mais alors, vraiment, il m'a dit, je prends ça en pleine gueule, il m'a dit, oh, c'est incroyable. Et puis finalement, j'ai fait tout le disque. Puis il avait une équipe formidable, il y avait Vander, il y avait Eddie Lewis, il y avait Bernard Lubat, il y avait des gens comme ça. Alors, Danser sur moi, c'était un truc de Neil Hefti qu'il avait fait pour l'orchestre de Count Basie, au départ, et qui était donc interprété par des trompettes, des saxophones, une rythmique, une trombone et Count Basie au piano.
Dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie. La voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi.
Donc c'est dans un style très particulier de jazz, un peu classique. Enfin. Et puis moi je me suis dit, ça m'intéresse pas du tout de reprendre ça. Et encore une fois, comme il ne me demandait jamais ce que j'allais faire, j'ai décidé de jouer la carte contre ça, et de faire une version avec des cordes un peu envolées comme ça, qui n'aurait plus aucun rapport avec la version originale que Neil Hefti avait écrite pour Count Basie. Et donc je me souviens que j'avais écrit, j'avais prévu un solo de piano pour Vander, dont je savais très bien, parce qu'il était très habile et très musicien, que j'avais qu'à écrire l'accompagnement, lui expliquer un peu ce que j'attendais de lui, et qu'il me fait le solo là-dedans. C'était un peu contraignant, parce que j'ai vraiment écrit comme si le solo existait déjà, avec comme les cordes qui ponctuent, qui le poussent, qui disent « vas-y, vas-y », etc. Et bien, il a très bien compris, je lui ai dit « là, tu montes dans l'aigu », puis les cordes, on s'est emballé, on a l'impression vraiment que les cordes le suivent, alors que c'est lui qui suit les cordes. Et là-dessus arrive Louis, qui n'avait pas entendu quoi que ce soit, il arrive en fin de séance, et puis il écoute ça, il me dit, mais Jean-Claude, mais tu n'as pas honte d'avoir fait un arrangement de cordes? C'est un sacrilège. Tu n'as pas honte, mais vraiment, c'est minable. Pourquoi t'as fait une chose pareille? Nous, on était pliés de rire, parce que lui, il considérait que c'est la chapelle, le jazz, quoi. C'était chapelle contre chapelle. À l'époque, on appelait les cordes des plumiers, un peu avec mépris, comme ça, les mecs, c'est les mecs de l'opéra, quand même. Et alors, c'était un peu les jazz contre les classiques.
J'aurais tendance à situer les héritiers de Claude Nougaro auprès de personnages qui ont un rapport à la musique à la fois populaire et à la fois expérimentale. J'ai un nom qui me vient spontanément, qui est celui de Camille, qui sait faire des chansons, c'est indéniable, mais qui est une véritable musicienne. Et quand je dis musicienne, je ne l'entends pas au sens classique du terme, je l'entends au sens rythmique du terme. Tout est source de percussion pour Camille, y compris son corps, ou le corps de ses musiciens. Elle sait faire sonner les mots, elle sait les dénaturer de leur sens premier et leur en donner un autre, elle sait jouer avec les sonorités et les sens cachés, elle s'en amuse. Dans un pays où on aime les textes, elle se permet de faire des chansons avec des sons.
Regarde là, ma ville, elle s'appelle
Piton, 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 bidonville, vivre là-dedans. C'est coton, les filles qui ont la peau douce, la vendent pour manger dans les chambres, l'air me pousse pour y dormir, faut se pousser, les gosses jouent, mais le ballon, c'est une boîte de sardines. Bidimbam, 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 donne-moi ta main, camarade. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux, oh, donne-moi ta main, camarade. J'ai cinq doigts, moi aussi, on peut se croire égaux. Bidimbam, 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 bidimbam.
Claude Nougaro voyait une héritière en vous, Camille. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette filiation ?
Il y a une filiation musicale, certainement dans la curiosité pour toutes les musiques, l'amour de la langue, le besoin de chanter, d'être sur scène. Et puis il y a une filiation tout simplement parce que c'est un peu comme un grand-père en fait. Apparemment, Nougaro n'a jamais appris la musique ou n'a jamais voulu l'apprendre. Il n'était pas musicien proprement parlé, il ne jouait pas forcément de piano, il ne composait pas. Et je crois qu'on a peut-être en commun ce côté autodidacte, en fait. Moi, j'ai toujours refusé, même si j'ai su très jeune que je voulais être musicienne, j'ai refusé de faire une école de musique. Et peut-être que dans mon ignorance que je cultive, je développe une curiosité encore plus grande. Et comme je ne sais rien, j'accueille tout les bras ouverts. Enfin, je suis fascinée par toutes les musiques. C'était peut-être son cas.
Ah, c'était peut-être avant. Là, dans ces manuscrits, on a une phrase écrite, un vers, écrit juste quelques mois avant sa disparition. Ça date de décembre 2003. Il écrit « J'ai envie d'écrire un chef-d'œuvre. Tout le reste n'était que hors d'œuvre. » Je trouve que ça dit beaucoup de choses sur son peu de foi en lui. C'est quand même invraisemblable d'écrire ça en 2003, après avoir écrit autant de chansons qui sont autant de chefs-d'œuvre.
On peut dire que c'était un poète, incontestablement. Alors pourquoi ne s'est-il pas contenté du texte écrit, après tout, quand on voit ses carnets, quand on voit ses notes d'auteur, il y a une vraie aventure du langage. Et je lui disais, moi souvent, mais tes mots peuvent se passer de la musique. Il me disait, mes mots, oui, mais moi, non. Et je me souviens, un jour, j'étais avec lui à une répétition, et un journaliste est arrivé pour l'interroger, et justement lui dit, oui, Claude Nougaro, c'est un répertoire, Claude Nougaro, c'est une œuvre, ce sont des chansons que chacun a maintenant dans son cœur, qui font partie, comme on le dit, du répertoire, mais la chanson, Claude Nougaro, ne demeure-t-elle pas malgré tout un art mineur ? Et là, Claude s'est levé de son siège, et il a répondu « Art mineur, certes, mais mineur de fond. Permettez que je me rende au charbon de mon langage et que je suce le gravier des mots pour en faire des émeraudes. »
J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou j'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche, comme les ponts de Paris avec bateau mouche, et la perle des pleurs avec l'œil des biches. Rime triste.
C'était Une vie, une œuvre. Aujourd'hui, Claude Nougaro, du swing plein les mots. Merci à Laurent Ballandra, auteur de l'intégrale Nougaro, l'histoire de toutes ses chansons aux éditions de La Martinière. Christian Laborde, auteur de Claude Nougaro, le parcours du cœur battant aux éditions Hors Collection. Bernard Lubat, musicien. Michel Legrand, Jean-Claude Vanier et Camille, auteur, compositeur, interprète. Et enfin Louis-Jean Calvet, linguiste et auteur de 100 ans de chansons françaises et de Chansons, la bande-son de notre histoire aux éditions de l'Archipel. Et enfin, merci à Xavier Perrault, Jean-Pierre Brun, et Hélène Nougaro. Une vie, une œuvre, coordination Martin Kénéen, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son et technique Mathieu Tourand et Alain Joubert. Réalisation Doria Zénine et Emmanuel Geoffroy, une émission de Jérôme Sandelard.
C'était Une vie, une œuvre, une émission coordonnée par Martin Kénéen, avec la complicité de Claire Poinsignon et consacrée aujourd'hui à Claude Nougaro. Podcast, réécoute, commentaires et compléments sur notre site.